Détour avec François Beauregard.
De retour avec Élisane Pellerin. Bonjour Élisane.
Bonjour.
On fait encore une fois la revue de presse. On s'est pas parlé depuis quelques semaines, mais ça n'a pas empêché la Terre de tourner.
Non, il paraît que la Terre a tourné quand même.
Oui, régulièrement. Voilà. Et on parle encore une fois de sport et des Paralympiques.
Oui, on revient sur le sujet des Paralympiques parce que, justement, les Paralympiques, on l'a dit dans les dernières semaines, ça offre des opportunités à faire avancer l'accessibilité au niveau des sports et de l'accessibilité universelle. Et c'est justement l'accessibilité des sports qui nous intéresse aujourd'hui parce que le Comité Paralympique va encourager, soutenir et aider pour qu'on soit capable de sensibiliser les clubs de sport à avoir plus de sports adaptés. Parce que l'objectif pour la saison 2024-2025, c'est de former 3000 nouveaux clubs de sport adaptés, puisqu'on constate que les clubs de sport adaptés sont peu présents en France.
En France, oui. Puis là, ils vont être les hôtes des Jeux paralympiques.
Oui.
Alors là, ben, ça l'a amené un peu un examen de conscience. Là. Donc, si les Jeux paralympiques sont à Paris, mais que le sport paralympique... sport adapté n'est pas disponible en France, il y a quelque chose qui cloche.
Donc, voilà, le ministère des Sports et le CPSF et les collectivités locales. Donc, il va avoir un programme gratuit pour avoir des formations pour rendre notre club de sport accessible. Et puis, les gens vont pouvoir donc s'inscrire pour avoir une formation, savoir comment on rend le sport accessible et comment on peut inclure plus de personnes en situation de handicap dans nos clubs de sport. Il y a formation, donc, à la fois théorique et pratique avec des gens qui ont de l'expérience, qui vont pouvoir montrer un peu leur expertise pour être capable de rendre, justement, le sport plus accessible. En France, étant donné une grande... partie de la population, quand même, a des limitations physiques ou d'autres limitations qui les empêchent d'être dans des clubs sportifs traditionnels.
Et d'y participer pleinement, exact, parce que c'est souvent dans ces clubs-là, il y a beaucoup de bénévolat et de bonne volonté, mais s'il n'y a pas de formation, même si on veut rendre notre club sportif plus inclusif et adapté, ben, si on ne sait pas par où commencer, ben ça va être plus long. Parlant d'inclusion, il me semble qu'on parle souvent de la Bretagne. Ça semble être une terre d'inclusion.
Oui, donc on parle d'inclusion au niveau de l'école. On a parlé aussi dans les dernières semaines, François, avec la rentrée scolaire au mois d'août. Donc, on parle de l'inclusion ici qui, en Bretagne, serait beaucoup plus difficile que ce qu'on veut bien faire croire. Donc, à chaque entrée scolaire, on se réjouit là, du côté de la France des... qu'on est capable d'entrer de plus en plus de jeunes en situation de handicap dans les réseaux scolaires. Par contre, il y a un papa d'une jeune fille qui est atteinte de paralysie cérébrale, qui Jean-Yves Houssec, qui dénonce le fait que c'est un peu de la poudre aux yeux dans l'optique où il y a beaucoup d'enfants en situation de handicap qui n'accèdent pas
Qui sont encore exclus. Parce que, comme on dit, c'est sûr que si un petit chiffre double, ça fait un gros pourcentage, mais ça demeure pas moins que c'est juste un autre petit chiffre.
Donc, on parle vraiment que il y a plusieurs enfants en situation de handicap qui n'ont toujours pas accès à l'école. Ils ne sont pas du tout scolarisés. Parce qu'on n'arrive pas donc à les inclure dans les programmes. Et donc, pour ce papa-là, c'est quelque chose qui est évidemment inacceptable.
Oui, parce qu'on parle de presque un demi-million de jeunes en situation d'handicap en France. Et sur cette population de jeunes qui doivent être scolarisés, on parle
de 10%.
10% qui, finalement, n'a simplement pas de scolarité. Et puis là, ben là ça les enferme dans... dans une vie tout à fait déconnectée de la société.
Oui, évidemment, on empêche leur scolarisation d'un côté, donc d'avoir des diplômes là, pour leur avenir et d'apprendre, mais de l'autre côté, il y a toute la socialisation qui est faite avec d'autres enfants qui était possible pour ces personnes-là. Et évidemment, ça met un gros poids sur les épaules des parents, à savoir exact. Qu'est-ce qu'on fait avec les enfants pendant qu'on va travailler. C'est souvent des enfants, évidemment, qui ne peuvent pas rester seuls à la maison. Donc, c'est toute une question de société ici hein, que le papa en question remet en question et demande...
Des gestes.
Des gestes, oui, des actions un peu plus concrètes plutôt que de se féliciter hein, d'un
maigre on en a 30% de plus, mais encore une fois, un gros pourcentage sur un petit chiffre, ça fait juste un autre petit chiffre qui est un petit peu moins petit. Mais et souvent, rendu le manque de scolarisation, va faire que rendu à l'âge adulte, si on espère qu'il y ait une intégration au milieu de l'emploi, ben là,
ça va être beaucoup plus difficile.
Ça va faire un autre problème, exact. Alors, ça, tout part de là. Mais on va parler de loisirs.
Parlons
hein?
de loisirs.
Je sais pas, êtes-vous une gameuse?
Non, je ne suis pas une gameuse. J'ai arrêté de gamer il y a bien longtemps après avoir joué à Mario Kart.
Mais cela dit, moi je connais des gamers qui vivent avec des limitations et puis la prochaine nouvelle va leur faire plaisir.
Oui, donc on parle de PlayStation qui met sur le marché une nouvelle manette adaptée qui s'appelle Access. Donc une manette qui a des plus gros boutons avec un joystick sur le côté qui va permettre aux personnes en situation de handicap, particulièrement les personnes qui ont des handicaps moteurs, de mieux tenir leur manette et de pouvoir jouer plus facilement. Il faut aussi dire que sur la manette, il y a possibilité donc de mettre des petits bouchons magnétiques pour être capable de changer l'allure des boutons pour mieux les adapter à nos besoins en tant que personne à mobilité réduite. Donc, c'est la nouvelle manette qui est proposée par PlayStation qui va sortir au Canada un peu plus tard cette année.
Parce que la manette elle-même, elle est conçue à l'origine pour une main typique, là, avec une capacité de pression qui est standard. Mais là, effectivement, ça peut être très frustrant de voir le petit bonhomme à l'écran là, qui est en train de se faire bouffer par les extraterrestres alors qu'on n'est pas capable
de manipuler.
Bonne volonté, puis on sait quoi faire pour aller chercher les armes atomiques supplémentaires. Là, je fais des blagues, de toute évidence. Moi non plus, Elisane, je ne suis pas un gamer. Mais ceux que je connais, c'est vraiment une partie importante de leur existence et je respecte ça tout à fait. Puis ils ont le droit de s'amuser et d'avoir des manettes adaptées. Ben ça, c'est une bonne nouvelle, peut-être à temps pour mettre sous l'arbre de Noël. Ça va nous aider. On va revenir après la pause, puis on va continuer à parler justement de tout de l'aspect technologie, et on va parler métavers.
Oui, on va dans le métavers après
On s'en
la
va
pause.
Dans le métavers après la pause. Thank you. Le métavers, on parlait de des gens qui ont une passion pour les jeux vidéo, mais le métavers, ça, c'est autrement sérieux aussi. Et ça va permettre peut-être à des enfants, à des adolescents en situation d'handicap, d'avoir des loisirs auxquels ils n'avaient pas accès jusqu'à maintenant.
Oui, des jeunes en situation de handicap dans différentes régions du Québec qui participeront à distance avec des activités de danse dans des environnements virtuels immersifs. Donc, on parle vraiment d'un casque de réalité virtuelle là, qu'on met sur nos yeux qui va nous faire aller dans un nouveau...
Dans un univers.
Dans un nouvel univers, donc vraiment en plusieurs dimensions. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est à la mode, mais c'est quelque chose qui n'avait pas nécessairement été développé au Québec pour les personnes en situation d'handicap. Donc, avec ce nouveau... c'est une recherche là, qui va être faite, entre autres, par le Centre hospitalier Saint-Justine, qui va permettre, donc, d'expérimenter la danse pour les personnes en situation d'handicap et de voir comment... Il y a la danse au niveau virtuel, donc dans le métaverse, vont être capables de développer différentes capacités chez les jeunes en situation d'handicap.
Et le projet s'appelle Danser dans le métavers. Hein? Et c'est un projet qui est mené en partenariat avec le Centre national de danse-thérapie des Grands Ballets canadiens. On avait déjà parlé dans un autre contexte avec notre collègue Julie. Plus tôt en septembre, un petit peu de d'autres projets. Donc, les Grands Ballets canadiens qui sont vraiment impliqués dans l'accessibilité de l'art de la danse pour les personnes en situation d'handicap. Et comme tu le disais, le Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine, en collaboration avec l'Université du Québec à Montréal, parce qu'évidemment, il y a un aspect technique à tout ça. Puis, il y a une société qui s'appelle OVA, O-V-A, une entreprise québécoise spécialisée en technologie. Alors, c'est prometteur. Moi, ça j'aimerais ça, pouvoir danser dans le métavers. Là. Je ne sais pas si... J'espère pas donner de coup de coude à personne.
Oui, voyons, c'est un peu dangereux là, pour y avoir essayé. J'ai pas essayé ce projet-là, mais j'ai essayé un métavers quelquefois dans ma vie. C'est très amusant, mais un peu dangereux là, pour les gens qui ont une situation d'handicap comme moi, parce qu'on perd facilement l'équilibre. Effectivement, on peut frapper des collègues.
Ah, OK,
donc,
oui,
oui. Il faut quand même être sûr d'avoir quelqu'un à côté de nous là, pour nous assurer une certaine sécurité.
Oui,
mais
oui.
C'est très amusant de faire ça. Et puis, effectivement, là, pour les enfants qui ont et des adolescents qui ont des problèmes au niveau du handicap, qui vivent avec un handicap, devrais-je dire, c'est une façon pour eux, effectivement, d'avoir des nouveaux loisirs et peut-être même éventuellement d'être capable de développer de nouvelles compétences, d'améliorer leur force physique, d'améliorer oui. Différentes choses.
Leur proprioception, puis leur habileté dans leur corps.
Tout en s'amusant, donc c'est une façon, c'est une recherche effectivement qui va pouvoir emmener d'autres recherches éventuellement et on espère qu'il va être capable de développer quelque chose de très utile, de très intelligent, tout en amusant les enfants et les adolescents qui vont y participer.
Oui, alors ça s'appelle « Danser dans le métavers ». On va suivre ça de près. Pour l'instant, c'est au stade de projet de recherche, mais on pense y arriver d'ici 2025 et mettre ça en ligne dans des environnements virtuels et rendre le guide pratique disponible sur un site web.
Il y a 256 000 personnes qui participent là, quand même. Ouh, donc,
okay,
c'est quand même une recherche de très grande envergure.
Oui, ben voilà, ça va être... Ça va être intéressant à suivre, puis peut-être que bientôt, on va tous faire ça, on va tous danser dans le métavers. Mais il faut juste d'abord enlever les objets fragiles du salon avant de commencer.
Peut-être pas moi.
Voilà. À Sainte-Julie se met à la page.
Sainte-Julie se met à la page, donc décide d'adhérer au programme de cartes accompagnement loisirs pour garantir l'accès gratuit aux accompagnateurs de personnes handicapées. Ce que d'autres villes au Québec ont fait, évidemment, avant.
Oui, oui.
Mais maintenant, voilà, Sainte-Julie décide d'embarquer dans le train. Et donc, un accompagnateur va pouvoir accéder gratuitement aux lieux touristiques, culturels ou aux lieux de loisirs lorsque la personne en situation de handicap a besoin d'un accompagnateur pour bien profiter des services et des endroits où elle va.
Oui, et on est content pour Sainte-Julie et c'est pour ses citoyens, de tous les Saint-Juliens et Saint-Juliennes, d'y avoir accès. Mais il faut rappeler que la carte Accès Loisirs, CAL, ça existe déjà depuis longtemps et dans beaucoup de régions du Québec, on peut y avoir, on peut accéder de façon sécuritaire avec quelqu'un qui nous accompagne dans des loisirs, toutes sortes de choses, des jardins botaniques, des musées, toutes sortes d'activités culturelles, des parcs. Alors, on peut contacter tout simplement le 833-693-2253 ou le site Carte Loisirs, tout d'un mot au singulier, carteloisirs.ca, pour en avoir fait l'expérience un peu partout au Québec. Là, c'est, parfois, les gens au guichet à l'entrée sont
moins courants. Oui, j'ai connu ça.
Mais on leur explique poliment, puis finalement, ça marche très bien.
Ça prend quelques minutes, mais ça va.
Après ça, ben, c'est bien. On se dit pour les prochains, ben, l'éducation sera faite. En parlant de loisirs, on est sportif aujourd'hui. Là, on parlait de métavers, on parle de loisirs, mais là, on y va un petit peu plus, là, pédale au fond. Là, on parle de CrossFit.
Oui, une autre chose que je ne ferai pas, François, donc du CrossFit adapté au Saguenay. Non seulement parce que le Saguenay est loin, mais parce que le CrossFit n'est pas dans mes habitudes. Mais, fait un pas de plus vers l'inclusion dans les sports en faisant du CrossFit adapté à Saguenay, donc en permettant des parcours de CrossFit qui sont adaptés à des personnes en situation de handicap physique ou intellectuel.
Parce que le CrossFit, c'est en fait une forme d'entraînement physique assez exigeant, mais c'est rendu maintenant au niveau du sport. Les gens s'entraînent pour le plaisir de s'entraîner et non plus s'entraînent pour... Par la suite, être plus performant dans une activité. Alors, effectivement, il y a des gens à Saguenay qui se sont investis d'une excellente mission de rendre le CrossFit adapté. Parfois, la forme physique, de toute façon, est gage de santé. Voilà, peut-être que ça va faire tache d'huile et que d'autres plateaux de CrossFit à travers le Québec, parce que c'est vraiment... Le CrossFit est un sport qui est assez exigeant, pratiqué par des gens... qui sont d'habitude dans une forme physique bien au-delà de la moyenne. Alors, on peut penser que c'est comme... Oui, mais comment quelqu'un qui est dans une situation de handicap peut faire du CrossFit, là? Mais oui, ben, ça se fait très bien. Puis, dès le premier week-end où ils ont essayé de faire l'initiation à ça, ils s'attendaient à 10 participants, puis ils en ont eu 30. Voilà, donc ça prouve qu'il y a un besoin. Et ce besoin-là va être comblé, du moins à Saguenay. On parle d'une décision. On en a parlé ici à ce micro, à Sans Détour. On parle des problèmes, je dirais, administratifs au sujet des pensions, des prestations d'invalidité au Québec, parce que là, le gouvernement est vraiment obtus.
Oui, donc des retraités en situation de handicap qui militent contre la réduction de leur chèque de pension parce que passé 65 ans, entre 60 et 65 ans, en fait, on se fait imposer une réduction de son cycle de retraite qui peut atteindre jusqu'à 36 % pour les personnes donc, qui ont une indemnité, donc qui sont incapables de travailler pour des questions de maladie ou d'incapacité physique ou autre. Donc, à ce moment-là, quand on arrive à entre 60 et 65 ans, le chèque est réduit là, quand même, je disais, jusqu'à 36 %.
Ça fait un trou dans le budget. Là.
C'est fait 36 %, c'est le coût du logement. Surtout là. Que ces jours-ci, tout augmente. Donc, les personnes en situation de handicap qui sont retraitées ou qui sont futures retraitées se battent contre cette règle-là qui, pour elles, n'a aucun sens étant donné que ce n'est pas un choix, donc, d'être en situation où on n'a pas pu travailler dans notre vie, mais c'est bien quelque chose qui est exigé vu notre situation physique ou psychologique ou autre. Donc, ils disent, étant donné cela, on n'a pas à être pénalisé au moment de notre
exact.
Retraite.
Et qui plus est, le tribunal administratif du Québec a donné raison aux plaignants. Une décision qui vient tout juste d'être rendue le 28 juillet cet été a conclu que les pénalités imposées par le régime de rente du Québec ont un caractère discriminatoire. Mais, et c'est là que ça commence à faire monter la température, le gouvernement a décidé de porter le jugement en appel, semble-t-il, pour des raisons techniques, étant donné que le gouvernement argue qu'il y a des erreurs de fait. Mais... Peut-être y a-t-il des erreurs de fait dans le jugement, mais il me semble que d'un point de vue moral, c'est de toute manière indéfendable.
Oui, mais bon, on s'entend que des fois, on n'est pas toujours de la même opinion que les gens du gouvernement. Il semble ici, effectivement, là, que le gouvernement n'est pas d'accord avec vous, François. Et on parle d'environ 70 000 bénéficiaires
exact.
Qui ont une rente d'invalidité. Donc, à ce moment-là, c'est quand même relativement peu de gens, mais il semble que le gouvernement n'entend pas donner raison, même si le tribunal a donné, lui, son accord ou a donné raison, en fait, aux personnes
un verdict.
A donné un verdict, oui, aux personnes retraitées en situation d'handicap.
C'est très clair. Il y a un groupe qui s'appelle les Invalides au front. C'est un groupe qui s'est formé sur les réseaux sociaux, justement, pour se mobiliser et dans cette affaire, là, pour continuer à mettre de la pression. On avait à l'antenne de Sans Détour, plus tôt en septembre, M. Joël Arsenault du PQ, qui est le critique en matière sociale, entre autres. Et on apprend que Linda Caron, la porte-parole de l'opposition officielle, ça c'est le Parti libéral, pour les aînés, a aussi fait des démarches. Alors c'est un dossier à suivre. Est-ce que le gouvernement va lâcher le morceau? On l'espère et on va vous tenir au courant. Crise du logement.
On revient sur la crise du logement. On en a parlé ici, François, il y a quelques semaines. On parle qu'il y a crise du logement pour les gens en situation de handicap est d'autant plus pénible, étant donné que le fait d'avoir très peu de logements qui sont vacants, imaginez quand vous avez besoin de logements avec des adaptations.
Oui.
Ça devient encore beaucoup plus difficile à trouver. Et il y a moyen aussi pour les personnes qui ont ces logements-là, donc qui les possèdent, de refuser les adaptations dans l'optique de d'évincer les gens en situation de handicap et de pouvoir, à ce moment-là, au moment où ces personnes-là sont parties du logement, mettre le logement plus cher. Évidemment, ce n'est pas adéquat de faire ça et ce n'est pas légal. Mais comme le disait Execo, qui est un organisme de défense des personnes en situation de handicap, reste qu'il faut aller en cour à ce moment-là et défendre nos droits et prouver qu'on a été évincé de façon illégale. Et c'est très difficile pour les personnes en situation de handicap qui sont dans cette situation-là de prouver leur point, d'avoir les moyens et les ressources d'aller en contestation judiciaire. Et donc, c'est quelque chose qui se fait malgré l'illégalité de la chose et qui garde les personnes en situation de handicap dans une situation où ils sont...
Prisonniers,
ouais. Oui, où ils sont vraiment mal pris au niveau du logement, mais aussi au niveau, ça apporte au niveau social, au niveau de la pauvreté, évidemment, un grave problème pour ces gens-là. On les maintient dans des situations où ils sont plus vulnérables à devenir des personnes en situation de pauvreté et à y rester.
Tout à fait. Et y ont une des demandes qu'Execo et Société Logique, qui est un autre groupement qui milite pour l'accessibilité universelle. On retrouve, évidemment, il y a une requête. On demande que les exigences du Code de la construction du Québec intègrent l'accessibilité universelle pour toutes les nouvelles constructions. C'est plus facile de construire du neuf comme il faut d'abord, souvent, que de réformer du déjà bâti. Une telle loi fédérale existe déjà en Australie, alors pourquoi pas ici? Voilà. On va retourner au loisir. Ça a l'air que c'est notre carmon aujourd'hui. Il y a un tournoi de goalball. Est-ce que vous connaissez le goalball, Lise?
Je ne connais pas le goalball. Je suis allée voir un peu sur Internet cette semaine pour me préparer, mais non, je ne suis pas...
Le goalball, c'est le sport adapté. En fait, c'est le sport qui... c'est pas un sport adapté. C'est un sport qui a été spécifiquement créé pour les personnes handicapées visuelles. Ce n'est pas du hockey adapté ou du tennis sonore ou du... Cécifoot, c'est un sport qui a été conçu pour être joué par des participants qui sont handicapés visuels. Et essentiellement, c'est des équipes, trois joueurs ou trois joueuses dans chaque équipe. Ils s'affrontent sur une surface qui va être l'équivalent d'un terrain dans un gymnase. Le but est très long et assez bas. Et on lance un ballon qui est lourd, dans lequel il y a une clochette et qui fait du bruit. Et les équipes donc s'affrontent 3 contre 3. Les joueurs ne se rapprochent pas de leurs adversaires, mais le ballon est lancé au travers de la piste. Alors, le goalball, qui est un sport paralympique, il va y avoir un événement.
Il va y avoir un événement le 4 novembre au Collège André-Grasset, donc au meilleur boulevard Crémazie-Est. On parle d'un tournoi ouvert aux enfants de 8 à 15 ans avec des équipes mixtes, donc composées d'enfants avec et sans déficience visuelle, pour une expérience, en fait, pour favoriser la solidarité et le fait de jouer ensemble. Et par la suite, il va y avoir aussi des conférences, donc, de 13h à 16h, le 4 novembre.
Tout ça au Collège André-Grasset. L'événement s'appelle « Les yeux fermés, le cœur ouvert ». Et c'est organisé par 4 étudiants en médecine de l'Université de Montréal en partenariat avec la Fondation des aveugles du Québec. Et si vous voulez en savoir davantage pour les inscriptions, que ce soit de façon ludique, faire du goalball et ou les après-midi avec les conférences sur la déficience visuelle, vous allez sur la page qui s'appelle LYFLCO. Ben ça, ça veut dire les yeux fermés, le cœur ouvert. Alors, c'est les premières lettres de chacun de ces mots. LYFLCO.org. Vous aurez tous les détails. Pour terminer rapidement, on va vous rappeler que INCA Québec est en ce moment à Québec. Aujourd'hui, demain, le mardi 17, mercredi 18, c'est la caravane, le hub mobile d'INCA qui a pris la route et qui est à Québec ces jours-ci. Les rencontres ont lieu au 3125 boulevard Hochelaga à Québec, dans la salle Champlain et Montcalm. Il va y avoir toutes sortes de conférences aujourd'hui, demain et mercredi. Les aides visuelles, la technologie, des façons de aussi des groupes qui vont permettre à des gens d'intégrer peut-être un handicap visuel récent dans leur vie. Des goûters seront servis. C'est vraiment la une sorte de fête du handicap visuel, façon de parler, dans un espace accessible et en même temps accueillant. Alors, tout ça à Québec. Élisane, merci beaucoup.
Merci.
À la prochaine. Merci à Mathieu Tessier, dont les services ont été fort précieux aujourd'hui, et à Claire Guérin à la recherche. On se dit bonjour à la semaine prochaine.